Vous allez bien ce matin? Super. Donc vous avez entendu, je remplace Marcos. Voilà, un petit incident. Pendant cette nuit, plus de peur que de mal. Visiblement, tout est rentré dans l'ordre, mais je le remplace. Bien qu'il soit inutile de vous préciser que je ne suis pas un grand théologien, vous êtes gentil de ne pas me le confirmer. Vous êtes adorable, merci. Je vais vous parler de quelque chose que je vous ai parlé il y a 2 ans. Vous savez ce qui s'est passé il y a 2 ans entre le 5 et le 21 août? Vous savez? Personne, hein? Bon. C'était les Jeux Olympiques de Rio. Vous voyez, si vous n'arrivez pas à vous souvenir des Jeux Olympiques de Rio, vous n'allez pas vous souvenir de ma prédication au mois d'août 2016. Donc ça sera certainement une nouveauté pour tout le monde. Alors justement, pendant cet été-là, pendant que certains se doraient la pilule à la plage, il y avait d'autres qui transpiraient et qui souffraient en participant à ces Jeux Olympiques. Chacun de ces athlètes a fait des efforts inouïs pendant des années, pas uniquement pendant les JO, mais pendant des années avant, pour pouvoir participer. Et gagner une médaille aux Jeux, c'est rentrer dans les livres d'histoire, c'est graver ton nom, voilà, sur les meilleurs athlètes de tous les temps. C'est un truc énorme, c'est juste un truc incroyable. Mais le plus important, c'est vraiment d'y participer. Ils font tellement d'efforts pour arriver, pour être sélectionnés. Je ne sais pas si, moi, je me disais, j'essaie de rêver, mais je suis un peu trop vieux pour ce genre de rêve. Et physiquement, je ne me fais aucune illusion. Mais je me dis, purée, de participer aux Jeux Olympiques, ça doit être un truc complètement fou. Et l'angoisse en fait de ces athlètes, tu sais laquelle c'est? C'est la blessure avant ou pendant les Jeux. C'est la peur, c'est le stress, c'est la peur de ne pas arriver à la fin de la course par exemple, de se rater, l'angoisse d'abandonner. Et puis pour arriver au bout et pour avoir cette qualification, ne serait-ce que pour les JO, et ne pas abandonner, il faut faire quoi? Il faut persévérer. Alors je ne sais pas si chacun a sa Bible ce matin. Si tu n'en as pas, il y en a qui sont derrière, tu peux lever la main et quelqu'un derrière t'en offrira une, c'est un cadeau pour toi. Et sinon, on peut lire ensemble Hébreux 12, 1 à 3, qui dit ceci: « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui a fait naître la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » Le contexte, quand cette lettre a été écrite, n'était pas un contexte comme on le vit en Suisse, un contexte de prospérité et de paix. C'était plutôt le contraire. C'était un contexte de persécution, de peine, de souffrance, de deuil. Certains commentateurs pensent que c'était les pires persécutions qu'il y avait pour les chrétiens, pour ces premiers chrétiens. Et ces premiers, si vous vous rappelez, il y a 15 jours, ces premiers disciples de Jésus. Elle a probablement été écrite avant la destruction du Temple d'Israël en l'an 70, donc on pense que ça a été rédigé vers les années 40. 40 ans après la crucifixion, un peu plus après, mais environ 40 ans après la crucifixion de Jésus, ce qui n'est pas les années 40 du coup. Les chrétiens de cette époque soupéraient déjà au retour du Seigneur et à l'établissement de son règne. Ils pensaient que ça allait arriver lors de la première venue de Jésus. Ils ont cru que le Seigneur Jésus venait pour ça. Et ça ne s'est pas passé comme il voulait. Ensuite, Jésus est crucifié, il ressuscite, puis ils se disent là, c'est là, il va établir son règne, il a vaincu la mort. Ce n'est pas encore là. Ça ne s'est pas passé comme il l'avait imaginé. En plus de pas se passer comme il l'avait prévu ou comme il l'imaginait, là, maintenant, ils étaient persécutés de tous côtés. Il y avait vraiment de quoi être hyper déstabilisés. Et ces chrétiens-là avaient un grand besoin d'encouragement. Comme nous, malgré un contexte bien plus favorable, on a aussi besoin d'être encouragés. et ils avaient besoin d'être exhortés par la parole de Dieu, comme nous. Et le titre du message de ce matin est « N'abandonne pas ». Ne laisse jamais tomber, n'abandonne pas. Dans ce premier verset, on a vu qu'on doit courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Dans d'autres traductions, ça c'est la traduction, 21, la nouvelle en français courant. Dans d'autres traductions, c'est la Louis II que nous avons, Louis II 21, et je vais y arriver. Dans d'autres traductions, il est écrit « épreuve » ou « carrière » au lieu de « course ». Et en fait, si on prend les textes originaux et les textes grecs, course, carrière ou épreuve voulait dire agone. Et agone est cité 6 fois dans la Bible, dont celle-ci d'Hébreux 12:1. Et est-ce que tu sais d'où vient ce terme agone ? Il vient d'agonie. Et agone était également l'arène ou le stade où il y avait les jeux, les combats, où il y avait également les entraînements, c'est un lieu de souffrance, un lieu de transpiration, un lieu d'épreuve. C'est ça que voulait dire agone. Et c'est ça que veut dire cette carrière, cette épreuve. Donc, le texte nous dit que la vie chrétienne est un agone. Et dans beaucoup d'églises, notamment évangéliques, on vous raconte n'importe quoi, où on te dit, tu reçois Jésus, tu l'as dans ton cœur, tu auras une vie qui sera parfaite, tu n'auras plus de problèmes, tu seras prospère, tout ira bien pour toi. Et d'ailleurs, si tu ne vas pas bien dans ta vie, et si tu n'es pas riche, et si tu es malade, c'est que tu pèches. Mais regardons ce que Jésus dit à propos de ça. Dans Jean 16, 33, si tu veux voir pourquoi il dit ça, tu liras le texte chez toi à la maison. Jean 16, 33 dit, « Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez à souffrir dans le monde. » Hein? Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Il y a un autre verset qui nous encourage par rapport à ça, dans Romains 8, 37, que je n'ai pas mis là. « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes les épreuves, nous sommes plus que vainqueurs. » Nous ne sommes pas perdants. Nous ne sommes pas des gens qui abandonnons à cause des difficultés. Nous sommes vainqueurs. Et dans chacune des difficultés de nos vies, la différence que nous avons par rapport aux gens qui ne connaissent pas Christ, c'est que nous avons Christ à nos côtés, qui nous aide à supporter, qui nous aide à tenir debout, qui nous aide à persévérer sur la durée et à ne pas abandonner. Et prenons un exemple qui n'est pas des moindres, l'exemple de l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, 23 à 28. Il est écrit ceci. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, et bien plus encore les emprisonnements. J'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1, c'est des coups de bâton. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger dans la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine et j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement, et sans parler du reste. Je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. » Plus loin dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens je crois, l'apôtre Paul nous parle de l'écharde qu'il a dans son corps. Parce qu'on voit l'apôtre Paul comme un gars énorme, plein de courage, extraordinaire. Là on voit qu'il a quand même bien bavé, si je peux m'exprimer ainsi. Et dans 2 Corinthiens, il parle de l'écharde qu'il a dans son corps. Et certains commentateurs suggèrent qu'il souffrait de paludisme, qu'il était peut-être même déjà aveugle ou pas loin d'être aveugle. Et à force de se faire battre, fouetter, lapider, certainement il n'arrivait plus à se tenir droit, tellement il devait être meurtri dans son corps et usé. Et vous savez quoi pour ce qui est de sa maladie et de cette écharde qu'il parlait ? Il a demandé au Seigneur de le libérer de cette écharde. Et vous savez quelle a été la réponse du Seigneur ? Voilà, ma grâce te suffit. tu vas vivre avec. Ma grâce te suffit. Ça a été non. Non. Et comment un gars comme l'apôtre Paul a pu supporter son agone ? Comment c'est possible que malgré tout ce qu'il subissait, vous avez vu toute la liste qui est là, une des choses qui l'inquiétait vraiment, et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. En fait, c'était ça qui le préoccupait. Annoncer la bonne parole. Il avait la bonne nouvelle de Jésus comme priorité dans sa vie. Et pourquoi il n'a pas abandonné ? Parce qu'il a certainement appliqué les trois points qu'on va voir ce matin. Pour courir, il faut courir libéré. Le deuxième point, ça sera courir avec persévérance, ne pas se décourager. Et le troisième, c'est courir les regards fixés vers Jésus. On prend le premier point, courir libéré. Est-ce que quand tu vas courir, est-ce que tu mets des palmes aux pieds ? Alors, il pleut un petit peu aujourd'hui, hein, mais est-ce que tu mets des palmes aux pieds, une combinaison de ski et un casque sur la tête si tu vas faire une course ? Je crois pas, hein. Ici, je vous ai pris un gars qui s'est déguisé pour faire une course. Vous voyez, il est déguisé en girafe. Mais t'es d'accord, il va pas aller super loin comme ça. Et en fait, si tu te rappelles, dans la Grèce antique, comment couraient les athlètes, c'est pas parce qu'il y avait une obsession du nu à cette époque-là, mais les athlètes couraient tout nus pour être le plus léger possible et pour être le plus efficace possible. Et quand on voit aujourd'hui les athlètes, ou même cette année on a eu la Coupe du Monde de foot, ils ne sont pas hyper chargés, quoi. Ils ont le minimum sur eux pour se protéger, pour être efficaces, pour courir, pour être agiles. Et puis pour la vie chrétienne, en fait, c'est la même chose. Tu dois courir léger. Alors, je ne dis pas que tu dois te promener nu autour de la Servette, hein. Il ne faudra pas aller dire si un policier t'arrête demain matin, que tu es nu dans le quartier, que tu dis à l'église dimanche matin, André m'a dit qu'il fallait aller nu. Ce n'est pas du tout ça. Mais tu dois rejeter tout fardeau et le péché qui t'enveloppe si facilement, comme dit le texte. On se fait tous plein d'idées pour nos vies. Et souvent à la fin, ça ne fonctionne pas comme espéré. Et en réalité, ça fonctionne rarement comme on pense. Pour certains, leur fardeau, c'est le mariage. Pour d'autres, c'est « je voudrais me marier, je ne suis toujours pas marié ». Pour d'autres, justement, le rêve du mariage se transforme en lutte. Ton couple a éclaté et tu as fini par un divorce. Tu n'avais pas prévu ça. Tu te laisses aller, tu abandonnes. Tu voulais avoir des enfants, tu n'en as pas. Ça te ronge, tu abandonnes. Tu en as eu des enfants, tu t'entends plus bien avec eux, ils te rejettent. Tu laisses tomber, tu abandonnes. Tu t'es dit, ce que je me disais hein, quand j'étais jeune, je vais pas vous dire si ça s'est passé ou pas. Et ça me décrit pas en fait. Tu t'es dit qu'avant 30 ans, tu aurais une belle voiture, ensuite tu aurais une maison, ensuite tu aurais ta résidence secondaire. Puis à la fin, t'es pas arrivé. T'es peut-être à la retraite et t'as été compliqué financièrement toute ta vie. Tu as eu de la peine à joindre les deux bouts toute ta vie. Tu désespères, tu abandonnes, tu dis « ma vie était ratée ». Pour d'autres, c'est que tu avais de grandes ambitions professionnelles. Tu as bossé comme un fou. Puis un jour, il y a une restructuration qui arrive. Moi, je l'ai vécu dans une banque. Et t'étais intouchable. Mais la restructuration, elle te prend avec. T'es viré. Tu abandonnes. Tu te dis « pourquoi tous ces efforts ?» D'autres ont leur propre entreprise qui était censée donner de la liberté. Et en réalité, elle les prend au piège. La santé, peut-être que tu l'as pas. C'est un trop gros fardeau. Tu commences à abandonner. Et dans chacune de nos vies, on peut identifier des échecs et des situations où la seule envie qu'on a, c'est de laisser tomber. Enfin, peut-être que je suis le seul, hein. Vous êtes super silencieux là, vous dites « je me sens assez seul ». Mais à mon avis, il y en a quelques-uns qui doivent partager ça avec moi. Est-ce que c'est des situations qui te surprennent quand elles arrivent ? Est-ce que vraiment c'est un truc qui te surprend ? Bah oui, parce qu'en fait, on a tous fait ce qu'on pensait faire juste pour que ça se passe bien. Parfois pas, mais la majeure partie du temps, on s'est donné des efforts pour que ça se passe bien. Mais en fait, ça va pas. Alors peut-être tu fais partie de ces gens exceptionnels qui se disent « Écoute, moi, tout va bien. J'ai un bon job, j'ai fait des bonnes études, je suis en pleine santé. Je suis un gars plutôt sympa, intelligent. Et du coup, je devrais avoir une vie plutôt facile. » Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Jésus était plutôt un homme qu'aujourd'hui on pourrait qualifier de sympa. Hein? Un gars extraordinaire. Il était bon. Un ami sur qui tu pouvais compter. Il n'y a pas de défaut. Ben, quand il a été sur cette terre, il a été rejeté. Il a été méprisé. Il a été abandonné. Il a été couvert de honte. Inondé d'insultes. Torturé, couronné d'épines et crucifié. Donc, je sais qu'on ne se met pas à la place de Jésus, hein. Mais donc, ne te fais pas d'illusions. Les problèmes, ils vont aussi arriver chez toi, dans ta vie. Et surtout quand tu connaîtras Christ. La Bible nous parle de cela. Et regardons dans 1 Pierre 4,13. « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. » Soyez pas surpris de la fournaise et des problèmes que tu traverses aujourd'hui. Sois pas surpris. Réjouis-toi de ça et on verra pourquoi. Et ensuite, et on arrive à notre texte, dans Hébreux 12, 1 à 3, il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe, si facilement. » Dans ce texte d'Hébreux, il y a deux choses. Il y a d'un côté les fardeaux, puis il y a de l'autre côté le péché. La situation que vivaient les chrétiens à l'époque était un fardeau pour eux. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a plein de situations dans ta vie qui peuvent être un fardeau pour toi, parce que ça ne se passe pas comme tu veux. L'opinion des autres peut aussi être un fardeau pour toi. Il y a des choses qui sont dues à ce qu'on se met comme fardeau nous-mêmes, puis il y en a d'autres qui sont dues au péché. L'opinion des autres, tu fais tout selon le regard des autres. Pour d'autres ici présents, c'est les regrets. J'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Et ça arrive souvent chez les personnes âgées. Parce qu'elles font une rétrospective sur leur vie, et elles pensent que le bilan est sur ce qu'elles ont vécu elles, et pas sur ce que Christ a fait dans leur vie. Et elles oublient, et on oublie tous, que lui s'est chargé de tout ça, et que ça, on doit le mettre de côté. Il faut rejeter ce genre de fardeau. Pour d'autres, c'est qu'un jour, elles ont été victimes de ceci ou de cela. Parfois, des choses graves, des choses hyper lourdes. Et leur fardeau, c'est d'être des victimes. Et c'est terrible, parce que plus on se victimise, et plus on s'identifie à ce qu'on a subi, plus on va mal. Et dans ce cas, on voit plus les autres. Et on ne voit plus Christ, et on voit nos problèmes, et nos douleurs, et nos soucis. Et ces soucis-là deviennent notre identité. Et Christ, il ne veut pas ça. Rejette tout fardeau. Transfère ça sur Jésus. Dis-lui de prendre ça en charge. Si c'est trop lourd pour toi, laisse-le se charger de ça. Et tant que tu n'as pas fait ça, tu ne vas pas pouvoir être en paix. Et pour courir, tu dois être en paix. Et surtout sur toute une vie. C'est Dieu qui doit être au centre de nos existences et non pas nos souffrances. Et quand ça se passe mal, moi souvent je remplace mes problèmes par Dieu. Enfin, je ne remplace pas mes problèmes par Dieu, je remplace Dieu par mes problèmes. Et je vois que... Mais tu n'as pas le droit d'abandonner parce que tu es un vainqueur, si tu connais Jésus. Tu n'es pas un perdant, tu es un vainqueur. Et on doit se débarrasser, on doit laisser le Seigneur prendre ses fardeaux si on veut être vainqueur, sinon on n'arrivera jamais à gagner. Et ce n'est pas le Seigneur qui va venir prendre ces fardeaux-là, tu sais. C'est toi qui dois les rejeter, c'est toi qui dois les mettre sur le Seigneur. Combien de chrétiens courent avec leur combinaison de ski, leurs chaussures de plomb ou leurs palmes et leur casque sur la tête et pensent qu'ils vont pouvoir courir longtemps? Et ça les empêche d'avancer dans leur vie chrétienne. On voit parfois des chrétiens, aucun à la servette, hein, je parle que pour des gens d'autres églises, qui ne font aucun progrès spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas débarrassés de ça. Et c'est une super nouvelle de pouvoir nous débarrasser de ça et pouvoir avancer. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui va venir prendre tes fardeaux. Il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Car lui-même prend soin de vous. C'est toi, déchargez-vous, décharge-toi. Je me décharge de mes soucis. Je lui donne, c'est pas lui qui va venir les chercher. Il va pas te forcer à te décharger. C'est ton choix. C'est ton choix de lui faire confiance. C'est ton choix d'aller vers lui. Est-ce que dans ce verset-là, c'est marqué « Déchargez-vous sur lui ou décharge-toi sur lui de tous tes soucis grands, énormes, les soucis vraiment où on ne sait plus comment faire, on est dans une situation telle qu'on est vraiment complètement dépassé, est-ce qu'il parle que de cela? Non, il parle de tous, y compris les tout-petits, y compris dans des petites choses qui nous chicanent dans la vie, où on sait que voilà, il y a quand même une lutte là-dessus. Ça aussi, tu peux te décharger sur lui. Le Seigneur le prend, mais c'est toi qui dois le donner. Et ce matin, s'il y a une chose que je voudrais que tu te rappelles, peut-être pour cette semaine et pour les... peut-être même pour ta vie. Quand tu as des problèmes, décharge-toi sur lui. Quel qu'il soit, quelle que soit l'épreuve. Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Même les tout-petits, parce qu'ils vont nous empêcher de courir. Et ce n'est pas uniquement dans l'Église qu'on doit se décharger, pas uniquement dans la... à titre privé, c'est aussi dans l'Église. Rejetons tout fardeau et regardons à Christ. Parfois, il y a des péchés, il y a des choses et des fardeaux qui nous tiennent captifs. Ça peut être le mensonge, ça peut être des addictions, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être le sexe, la pornographie, la méchanceté. Moi, je suis un gars qui n'est pas souvent très sympa. Parfois, c'est un fardeau pour ceux qui m'entourent, mais ça le devient aussi pour moi. Je dois remettre ça au Seigneur. Je n'ai pas besoin de te faire une liste, parce que ça commence de nouveau à être lourd. Hein. Déjà, la prédication, il y a 15 jours, là, ça recommence. Mais je vais te donner quelques exemples dans la Bible de gens qui ont abandonné à cause du péché. Et essayons de ne pas faire comme eux. Le roi Salomon, il avait un problème avec les femmes. C'était un obsédé sexuel. Je pense qu'on peut le traiter comme ça, sa pathologie. Ça l'a fait abandonner, il s'est tourné vers les idoles. Judas, malgré le fait qu'il ait été choisi par le Seigneur, il a abandonné, peut-être pour des... ambitions politiques, parce qu'il voulait bien se faire voir par les grands de cette époque-là en livrant Jésus, et aussi par l'argent. Ça l'a perdu. Peut-être quelqu'un que tu n'as jamais entendu parler, Démas, dans 2 Timothée. C'est intéressant ce qu'il a perdu. Tu sais ce qu'il a perdu? C'était l'amour du siècle présent. Et avec l'amour du siècle présent, il aimait tellement les choses de la société. Et pour nous, c'est on aimerait tellement les choses de la société d'aujourd'hui. On aime tellement le monde. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais. Mais on est tellement pris par tout ça qu'on n'a plus le temps pour le Seigneur. Et c'est marqué qu'il est devenu inutile pour le Seigneur. C'est ça qu'il l'a perdu. Il y aurait plein d'autres exemples. Et beaucoup abandonnent justement parce que le poids de leur vie et leur poids du péché est beaucoup trop lourd. Mais en Jésus, on a vu qu'on a la victoire. malgré tout notre passé. On n'a plus à se définir par nos problèmes, par nos péchés. Je ne peux pas dire que mon grand-père, ce qui n'était pas le cas, mais mon père pourrait dire que, vu que son grand-père était violent, alcoolique, etc., qu'il aurait aussi pu devenir violent, alcoolique. Parce que dans ma famille, c'est passé ci, ça et ça, je suis comme ça. Mais Jésus veut qu'on ait une nouvelle identité en lui. Donc ce n'est pas une excuse, tu ne peux pas aller vers ça. Tu as une vie nouvelle en Jésus-Christ. Dans notre vie, on est tous esclaves de quelque chose. Mais je pense qu'il n'y a aucune personne ici qui peut prétendre n'être esclave de rien. Et c'est quelque chose sur laquelle on doit travailler. Mais la première chose qu'on doit vouloir, c'est être esclave de Christ. Parce que lui s'est chargé de nos péchés. Et là, on doit faire un choix. Qui on veut suivre ? Le péché a un très mauvais maître, au contraire de Jésus-Christ, et par Jésus-Christ, on a la puissance de dire non au péché. Et dans cette histoire de dire non au péché, on peut lire le texte de Matthieu 5, 27 à 30. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi de subir la perte d'un œil, subir la perte d'un seul de tes membres, que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te porte à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi de subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Alors de nouveau, c'est une image. C'est une image. Là, il y avait un exemple d'adultère. C'est pas pour se focaliser là-dessus. Mais le péché, c'est pas uniquement des actes. Il commence dans notre cœur. C'est un état d'esprit. Lorsqu'on sent que quelque chose ne va pas bien, et moi ça m'arrive quand même assez souvent, et ça arrive assez souvent que je ne prête pas attention à ça alors que je le sais, je vais jusqu'au bout et je pêche. Mais si tu as une relation avec le Seigneur, l'Esprit Saint te parle, et tu sais quand cette situation-là elle est bien, quand cette situation-là elle n'est pas bien, et tu sais quand tu dois réagir et quand tu ne dois pas réagir. En tout cas, quand c'est avec du péché, c'est clair qu'on doit toujours réagir. Tu ne peux pas non plus dire avec le Seigneur, écoute Seigneur, tu as vu, j'ai fait plein d'efforts dans tous ces domaines-là, mais il y a encore ce petit truc-là, mais tu sais que j'apprécie quand même beaucoup. Et tu sais que c'est un péché. Non, tu dois être radical. Et là, on voit dans ce texte-là, voilà, si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le, c'est radical. Arrête ça tout de suite. Si ta main fait quelque chose de faux, coupe-la, c'est radical. Il faut qu'on s'éloigne du péché. Tout ça pour vous dire quoi ? Qu'il faut courir libéré, courir léger. Et il faut courir léger, puis il faut courir avec persévérance et ne pas se décourager. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Ce n'est pas parce que tu as des épreuves dans ta vie que tu as un manque de foi. Et ça ne veut pas dire non plus parce que tu as de la peine dans une situation et tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir que tu es un mauvais chrétien. Tu peux partager avec des frères et sœurs dans la foi. C'est aussi pour ça qu'il y a les groupes de maison qui commencent cette semaine, pour qu'on puisse étudier la parole, pour qu'on puisse s'entraider les uns les autres, prier les uns pour les autres, s'exhorter les uns les autres, s'édifier, grandir dans la connaissance de Dieu. Et avant d'arriver dans Hébreux à ce chapitre 12 qu'on a lu là, en tout cas un verset, au chapitre 11, il y a les grands exemples de la foi, pour qu'on puisse se rappeler de ceux qui nous ont précédés, pour qu'on ait des repères aussi. Et il y a 16 témoins qui sont mentionnés, plus les prophètes, qui prouvent que c'est possible de courir libéré, et que c'est possible de tenir le coup malgré les épreuves. Tu pourras lire ça, tout ça plus tard, mais on peut prendre trois exemples. Sarah, la femme d'Abraham, qui était stérile, c'est une grande souffrance pour elle. Mais elle a cru que Dieu avait un plan pour elle et pour Abraham. Le Seigneur leur a répondu dans ce sens-là. Parfois, il répond pas par la positive. Tu te souviens de l'apôtre Paul, hein, pour les chardes, il lui a dit non. Là, il aurait aussi pu dire non. Mais Dieu avait d'autres plans et ils se sont confiés en Dieu, quelle que soit sa réponse. Ils ont eu un enfant avec un âge avancé. Quelques temps plus tard, tu te souviens ce que Dieu demande à Abraham ? Il lui demande de sacrifier son fils. Et quand il avait été jusqu'au bout pour le sacrifier, là, Dieu l'arrête. Puis il a dit, voilà, je sais jusqu'où tu vas pouvoir aller avec moi. Il a confié aveuglément parce qu'il savait que le Seigneur avait un plan qui aurait été merveilleux pour lui. Et ça a été le cas. Ils ont eu confiance en la bonté de Dieu. Ils n'ont pas lâché parce que Dieu avait un plan. Et Moïse est devenu l'un des plus grands chefs que le peuple juif ait eu, le peuple d'Israël. Joseph, purée Joseph, tu te souviens ce qui s'est passé avec Joseph ? Il se fait trahir par ses frangins, jeté dans un trou. Il devient esclave, donc il a été vendu. En prison, alors qu'il s'en sortait plutôt bien, il bossait, c'était un bon gars dans la maison de Potiphar. Hein. La femme de Potiphar voulait avoir des rapports intimes avec lui, il n'a pas voulu trahir son maître, il se retrouve en prison. Ça commence à faire beaucoup, il y a eu plein d'épreuves pour Joseph. Dieu avait des plans. Grâce à Joseph, l'Égypte fut épargnée de la famine. Et c'est aussi par Joseph que ses frangins et sa famille a pu avoir à manger par la suite. Dieu avait des plans pour lui. Et puis pas uniquement dans la Bible, on trouve ces grands exemples d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu, qui étaient des gens en fait comme toi et moi. Hein. La seule peut-être différence parfois par rapport à moi, c'est qu'ils ont placé toute leur confiance dans le Seigneur. Celui-ci, je vous en parle de temps en temps, hein, John Wesley. On l'a surnommé l'apôtre des foules, le pasteur des pauvres. En 50 ans de ministère, on calcule qu'il a parcouru 360 000 kilomètres, vu que c'était dans les années 1700 et quelques, 1739. Il n'y avait pas de véhicule, hein. C'était à cheval ou à pied. Il a prononcé 40 à 50 000 serments, ça fait à peu près 3 prédications par jour. Donc, il était vraiment à fond pour le Seigneur. Et ça n'a pas été simple pour lui. C'est un gars qui se levait tous les matins à 4 heures du matin pour prier. Il a été chassé, il a été calomnié, il a été humilié. Par sa faute aussi, il a eu une vie de couple qui était catastrophique, mais catastrophique, abominable. Ce n'était pas un homme parfait. Il aurait pu tout abandonner par ses erreurs à lui et aussi par ce qu'il subissait. Mais non, il a continué. Il s'est libéré de tout ça et il a couru à fond la caisse pour le Seigneur. Un autre, Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, qui est né en 1834. Il est écrit « De santé fragile, affligé de rhumatisme, de gouttes, de néphrite, il faisait de fréquents séjours à Menton, dans le sud de la France, pour récupérer. » C'est là qu'il est décédé, d'ailleurs, en 1892. Mais souvent dans son ministère, il a dû faire des pauses. Très souvent. Une autre particularité de Spurgeon, qui n'est pas marquée là, c'était un gros dépressif. Il faisait des dépressions profondes, mais vraiment profondes. Pourtant, il arrivait à se décharger de ses fardeaux auprès du Seigneur. Et il a pu courir cette course. Il a écrit un texte qui résume un peu l'état dans lequel parfois il pouvait être. Ce texte dit ceci de Charles Spurgeon. « Dès lors, j'ai été plongé dans les eaux Dès lors, j'ai été plongé dans des eaux que l'on ne pouvait traverser. Et qui, si ce n'eût été le bras de Dieu, m'a soutenu ? Ces eaux auraient été pour moi les eaux où on se noie. J'ai été frappé par beaucoup de fléaux.
de violentes douleurs physiques m'accablent l'esprit, le deuil, enfin l'épreuve dans la personne de celle qui m'est plus chère que la vie se sont abattues sur moi. Je mentionne ces faits non pour exciter de la sympathie, mais pour montrer que je ne suis pas un marin de terre. J'ai traversé les océans qui sont loin d'être des océans pacifiques. Je connais le roulement des larmes et la violence des vents. Et jamais les promesses de l'Éternel ne m'ont été si précieuses qu'elles le sont à cette heure. Il y en a que je n'ai jamais compris jusqu'à maintenant. Je n'étais pas parvenu à l'époque de leur maturité pour moi, car je n'étais pas assez mûr moi-même pour comprendre leur signification. Comme la Bible me paraît plus admirable maintenant que précédemment.
Moi, quand je lis un texte comme ça, ça me rassure. Un immense théologien, une référence, et voilà les doutes qu'il pouvait avoir. Mais dans ce texte-là, qu'est-ce qu'on voit ? Malgré les épreuves, malgré les peines, il se confiait dans le Seigneur, parce que le Seigneur était une réalité dans sa vie, et parce que le Seigneur Jésus vit. Souviens-toi de ces héros, souviens-toi de ces chrétiens qui t'ont précédé. On en a dans notre église aussi, hein, des cheveux blancs, parfois d'autres qui ne sont pas des cheveux blancs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de M. Franck, qui est allé auprès du Seigneur il y a quelques années. Je l'avais rencontré à l'hôpital peu de temps avant qu'il décède. Puis je lui demandais, ce qui était une question un peu bête, hein, comment il allait. Et il me répondit, « Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » Que demander de plus ? Je me réjouis. Je me réjouis. Puis il m'a dit, vous pouvez partir, je suis en paix. Le meilleur est devant moi. Il y en a un autre qui est ici, c'est Vili, qui est aussi un exemple pour moi. Malgré l'âge, malgré la vue qui baisse, malgré les ennuis de santé, malgré Annie qui ne va pas bien, il continue, il est fidèle, il persévère. Ce n'est pas pour lui faire une statue, parce que ce n'est pas un gars mieux que moi ou mieux que vous. Simplement, il a déposé les choses au pied du Seigneur. Et il vit et il court libéré. Enfin, si c'est fou, il peut le dire. Hein. Tu peux le dire. Regarde tous ces cheveux gris et blancs, pas les miens, qui persévèrent, et je pourrais en citer beaucoup, des exemples de fidélité. Et pour revenir aux Jeux Olympiques d'il y a 2 ans, je ne sais pas si tu te rappelles d'une histoire ou des images du 50 km marche messieurs. Ça vous dit quelque chose ? Vous voyez cette épreuve qui est absolument, selon moi, et je suis désolé, qui est absolument affreuse de voir ces gars ou ces dames marcher à toute vitesse. Je trouve ça... Enfin, je ne vais pas le dire parce que c'est enregistré et ça passe sur le net. C'est une des images qui m'a le plus marqué de ces Jeux Olympiques. Celui qui a gagné, je ne m'en rappelle absolument plus. Mais le gars, il s'appelait Johan Diniz. C'était un Français qui participait pour la 3e fois aux Jeux Olympiques. C'était un des favoris, puis qui avait toujours eu des histoires pour chacune de ses courses, et il n'avait jamais gagné. Et il rêvait d'une médaille, et c'était vraiment légitime. Il est parti comme un boulet de canon. Au 10e kilomètre, il avait rétamé tout le monde. Il était vraiment vachement en avance. Il a souffert de troubles gastriques qui ont provoqué des saignements. Et en gros, je ne vous ai pas mis la photo, mais il s'est vidé en marchant. Déshydraté, il est tombé plusieurs fois. Quelqu'un l'a aidé à se relever. Je vais vous passer tous les détails, c'était hyper impressionnant. Et tu sais ce qui s'est passé avec Johan Diniz ? Il a terminé la course, 7e. Il n'a pas lâché. Et... on lui demandait comment est-ce qu'il se sentait, puis il a dit « Franchement, je ne suis pas déçu, je me suis battu et je suis allé jusqu'au bout de ce que je pouvais faire. » Et dans notre course chrétienne, est-ce que la course de Johan Diniz était parfaite ? Non, elle n'était pas parfaite. Elle était même assez moche. Mais il n'a pas abandonné et il a achevé la course. Et dans notre course chrétienne, ce n'est pas le classement qui compte. Hein. Il n'y a pas un classement au ciel. Toi, tu es le premier, toi, tu es le deuxième, toi, tu es le troisième. De toute façon, celui qui a gagné, c'est Jésus, pour l'exemple qu'on a sur terre. Donc, tu seras de toute façon peut-être que deuxième. Mais non, ce n'est pas le classement qui compte. C'est de persévérer et d'aller jusqu'au bout. Et si tu tombes, tu peux te relever. Et si tu retombes, tu peux te relever à nouveau. Et si tu as de la peine parce que tu tombes tout le temps, tu peux parler avec un frère et sœur. Tu peux venir vers un des responsables de l'église. Écoute, il faut qu'on partage ça. Il faut que tu m'aides. Il faut que j'ai quelqu'un qui m'accompagne. Ça peut arriver aussi aux responsables d'église d'avoir besoin de ça. Et tous ensemble, on peut aller vers le trône de la grâce et vers Jésus qui va nous aider à poursuivre la route. Dis non à tes fardeaux, dis non à tes péchés, car tu es mort pour le péché et tu es vivant pour Christ. Et on arrive bientôt au bout. Courir le regard fixé sur Jésus. Donc on revient au texte qu'on avait eu de Hébreux 12, 1 à 3. Et la deuxième partie, c'est « Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, comment hein? Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui a fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Puis tu sais comment tu dois faire pour arriver à faire ça, avoir les regards fixés sur Jésus? C'est une vie de prière. Une vie de prière personnelle. Et c'est aussi ce que dit le psaume 119, 11. « Je serre la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » afin d'apprendre, afin de croître. Et de nouveau, je reviens au groupe de quartier qui commence cette semaine. Il y en a 6 qui commencent cette semaine. Il y aura une annonce tout à l'heure. Il y a encore des endroits où tu vas pouvoir t'inscrire. Il y en aura d'autres qui commenceront certainement plus tard. Augmente ta relation avec Jésus et avec Dieu aussi par ces groupes-là. Ce sera aussi des moments qui te encourageront dans la lecture de la parole de Dieu. Ça sera aussi des moments où tu pourras partager tes fardeaux avec les autres, ceux que tu n'arrives pas à t'en débarrasser, pour être aidé. Les épreuves et les souffrances, Jésus est passé par là. Et il est mort pour qu'on puisse se libérer, pour qu'on puisse courir léger. Et il a porté tous tes fardeaux et tes péchés sur la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, c'est de vivre avec une identité de vainqueur. De vainqueur en Jésus-Christ. Parce qu'on peut se décharger sur lui. Tu as une page blanche avec Jésus devant toi. Que tu peux écrire avec lui. Et quel que soit notre âge et quelles que soient nos origines, cette identité nous permettra de faire de grandes choses avec Jésus. Et j'en suis convaincu. Aussi dans ce projet qu'on a de croissance pour notre Église. Donc si j'avais un devoir à vous laisser pour cette semaine, comme à l'habitude de le faire Jonathan, ça serait rejoindre un groupe de quartier pour être plus proche de Dieu, pour être plus proche de Jésus, pour être plus proche de tes frères et sœurs, pour mieux apprendre ce que Dieu veut pour ta vie, pour s'exhorter et s'édifier mutuellement. Je vais juste relire ce texte une dernière fois. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Juste prendre la première partie. Voilà, soyez persévérants. La vie chrétienne n'est pas une vie facile, mais c'est une vie libérée. C'est une vie avec un avenir éternel. C'est une vie de paix. C'est une vie aussi où tu trouveras des frères et sœurs en Christ. C'est une vie qui vaut la peine d'être vécue, malgré les difficultés, malgré le fait qu'on soit dans un agone, qu'on soit dans ce lieu, dans cette course qui est difficile. Et beaucoup d'entre nous ont des épreuves qui sont incroyables, mais le Seigneur nous aide, nous soutient. Et voilà, j'espère que ce soit une réalité pour vous. Et je vous souhaite plein de joie, plein d'entrée, d'entrain, pour courir cette course que le Seigneur nous propose. Je vais prier. Ouais, Seigneur Jésus, tu nous as jamais promis que la vie allait être facile, tu nous as jamais promis
que nous n'aurions pas d'épreuves. Tu nous avertis d'ailleurs que nous les aurons. Tu nous avertis que cette vie chrétienne est un moment d'épreuve, de souffrance. Mais on sait que notre avenir n'est pas ici, Seigneur. On sait que notre avenir est auprès de toi. Que notre avenir est dans la Nouvelle Jérusalem. Que notre avenir est au ciel avec toi, Seigneur. Merci parce que pendant tout notre chemin terrestre, tu es là pour nous soutenir. Tu es là pour nous relever. Et tu veux qu'on ait une vie qui ressemble de plus en plus à toi, Seigneur. Je te prie de nous aider, Seigneur, à nous approcher de toi. Que tu nous aides à nous décharger de nos soucis sur toi. Et Seigneur, vraiment, je te prie que pour chaque personne qui est ici ce matin, que vraiment chacun puisse prendre cette décision, Seigneur, de vivre libéré, de courir avec persévérance, Seigneur, et à garder les regards fixés sur toi. Toi qui es l'exemple suprême, l'exemple parfait. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui souffrent et qui seraient ici. Je te prie pour tous ceux qui sont dans des situations qui sont difficiles. Je te prie, Seigneur, d'intervenir et je te prie de leur accorder ta paix et aussi l'intelligence dont on a besoin pour gérer ces situations-là, Seigneur. Merci parce que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des jours, des temps, Seigneur. Merci pour ces moments qu'on a pu passer avec toi. Amen.